11h30.
Jean Lemarié.
L'information et la culture pour éclairer l'actualité.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
20h, 20h exactement sur France Culture, soit l'heure de retrouver Antoine Garapon pour Esprit de Justice.
Merci Quentin et on vous retrouve demain. Tous mes voeux, chers auditeurs, pour cette nouvelle année, cette nouvelle série d'Esprit de Justice. Et bien, pour bien commencer l'année, Esprit de Justice va vous parler d'une justice qui marche, une justice qui innove, une justice moderne, ouverte, en vous parlant des juridictions résolutives de problèmes. Dans le sillage de la conférence de consensus sur la justice pénale qui s'est tenue en 2013, différents tribunaux français ont progressivement implanté des juridictions résolutives de problèmes. L'idée de créer une problem solving court, parce que ça vient des États-Unis, ou une drug court, une cour spécialisée sur les problèmes de drogue, a germé dans la tête des juges de Floride, parce que ces juges constataient leur impuissance à enrayer la délinquance, une délinquance liée au trafic et à la consommation de crack. Et ils n'arrêtaient pas de voir passer devant eux des personnes, des jeunes hommes pour lesquels ils ne pouvaient rien, tellement ces jeunes cumulaient des vulnérabilités sanitaires, sociales, personnelles. Alors, l'idée de la juridiction résolutive de problèmes, c'est de passer de la punition à la résolution de problèmes, comme son nom l'indique. Et ça remet en cause une certaine philosophie pénale classique, traditionnelle, pour laquelle c'était la sévérité et la certitude de la sanction qui marchait, qui était efficace. En réalité, des études montrent que les personnes très vulnérables ne craignent plus la peine. Elles sont sensibles, en revanche, à la manière dont elles sont traitées par la justice, et notamment à la bienveillance, à avoir la possibilité de s'exprimer. Et elles sont sensibles au fait d'une institution qui ne cherche pas à les enfoncer, mais qui tente au contraire de leur proposer des solutions, qui ne fait pas que punir, mais qui cherche simplement à les accompagner. Dans les juridictions résolutives de problèmes, l'action de la justice n'est plus seulement liée à la commission d'une infraction, elle le reste bien sûr, mais elle se préoccupe des personnes très vulnérables et à haut risque. Alors, ça veut dire que le magistrat change de statut en recevant la personne à un rythme soutenu et non plus simplement dans le cadre d'une audience. Mais ça réclame aussi, on s'en doute, une très bonne coordination avec le secteur sanitaire, les dispositifs de santé mentale, notamment d'addictologie. Alors Esprit de Justice est allé voir pour vous sur le terrain comment fonctionne ces nouvelles juridictions. Il s'est rendu à Clermont-Ferrand, qui est l'une d'entre elles, et une juridiction pilote parmi d'autres aussi qui ont tenté cette expérience. Et pour en parler, l'émission a réuni trois acteurs et trois actrices de cette juridiction résolutive de problèmes en la personne de Catherine Grosjean, présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'Eman Benelmamoun, qui est psychiatre addictologue et référent du dispositif psychiatrique de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Rion, et qui est également responsable de l'unité d'addictologie du centre hospitalier Sainte-Marie, et puis enfin Joëlle Bella-Roseroff, qui est première vice-présidente et qui est chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en d'autres termes, qui est JAP.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors ma première question, c'est pour vous, Madame la Présidente. Comment c'est venu l'idée de se lancer dans cette aventure de la juridiction résolutive de problèmes ?
Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de ce 1er janvier. Eh bien, en fait, c'est un désir que j'avais depuis assez longtemps. Magistrate depuis plus de 30 ans, j'ai condamné à de très nombreuses reprises des personnes qui connaissaient des questions d'addiction. Et ces addictions étaient à l'origine de leur passage à l'acte, des délits qu'ils avaient commis. Et je ne pouvais que constater l'échec de la justice. En effet, les sanctions étaient de plus en plus graves, avec des accompagnements judiciaires qui n'empêchaient pas la récidive et je voyais des personnes être incarcérées alors qu'ils commettaient des faits qui n'étaient pas forcément les plus graves, mais qui étaient le 5e, le 6e, voire le 14e fait de même nature, notamment en matière de conduite en état alcoolique ou même quelquefois des violences, mais dans ce cas-là, la sévérité pénale se comprenait. Et donc on incarcérait au fil de l'eau donc un certain nombre de personnes qui ne faisaient que se dégrader dans le cadre de l'incarcération et se désocialiser parce qu'il s'agissait également de personnes qui, quelquefois, avaient un emploi, avaient une situation familiale relativement stable. Et en définitive, l'action de la justice, au lieu de contribuer à la lutte contre la récidive et un redressement de la personne, finalement contribuait plutôt à dégrader sa situation personnelle. Donc j'étais extrêmement insatisfaite comme magistrate de contempler ce que nous faisions. Et,
même sentiment d'impuissance que les juges de Floride.
Ah ben absolument. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée complètement dans cette analyse que vous avez présentée à l'instant. Et donc, je suis en 2013 la conférence de consensus. J'entends parler des nouvelles méthodes prédictives de la récidive qui venaient effectivement des pays anglo-saxons. J'entends parler également des nouvelles méthodes de suivi, risque, besoin, réceptivité, dont probablement
oui, on
parlera.
On va en parler parce que voilà, ça, c'est complètement nouveau
parce
aussi.
Parce que ça, c'est très, très, très intéressant. Oui. Comment prendre en compte cette complexité du risque que présente la personne, de son besoin d'accompagnement et comment l'ajuster au risque qu'il représente et également à sa capacité à tirer bénéfice des prises en charge qui lui sont proposées. Mais et j'entends parler de la justice résolutive.
Et vous avez envie de tenter l'expérience.
Pour moi, ça, je dois dire que j'étais vraiment très insatisfaite et donc de la manière dont la justice se rendait. Je deviens présidente. J'étais avant en charge de formation à l'école de la magistrature, donc j'ai monté des formations sur la justice résolutive. Et là, j'ai vu qu'il y avait deux mondes. Le monde de l'administration pénitentiaire qui était formé et qui connaissait donc tous ces dispositifs, ces nouvelles pratiques, notamment l'entretien motivationnel, et les juges d'application des peines qui ne l'étaient pas encore. J'ai donc attendu que l'école de la magistrature se mette à niveau et forme les jeunes juges d'application des peines. Et à un moment, en arrivant dans ce tribunal de Clermont-Ferrand, un appel à projet de l'école de la magistrature, donc octobre 2021, sur la possibilité de monter sa justice résolutive. Alors là, ma quête rencontrait la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif, ces nouvelles pratiques. Je fais appel à Madame Bellard en premier lieu en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes partant ?» Parce que ça ne se faisait pas sans les JAP. Elle m'a dit « Oui, j'engage avec moi les 5 juges d'application des peines de Clermont-Ferrand. » Et ensuite, j'ai monté le groupe projet et c'était parti.
Joëlle Bellard-Roseroff, vous aviez entendu parler de la justice résolutive ?
Pas du tout.
De problème, non.
J'avais absolument jamais entendu parler de ça, malgré effectivement les différentes formations qui existaient depuis un certain temps à l'école de la magistrature. Quand Catherine Grosjean m'a présenté les choses, ça a rejoint totalement mon envie aussi de faire évoluer mes pratiques.
Parce que vous aussi, vous voyez les mêmes personnes.
J'avais fait le constat qui vient d'être décrit. Oui. Ça fait moi aussi un certain nombre d'années que j'exerce ces professions enrichissantes de magistrat, mais avec une certaine insatisfaction, effectivement. Et le projet me semblait tout à fait intéressant, pertinent, surtout dans le sens d'une création d'une équipe pluridisciplinaire.
Alors, Emmanuel Mamoun, on parlait de deux mondes, le monde de l'administration centrale et le monde des juridictions. Il y a un autre monde qui est encore plus éloigné, c'est le monde de la santé et le monde de la psychiatrie.
Tout à fait, effectivement.
Alors vous avez marché dans cette offre d'une coordination, d'un travail avec le tribunal plus rapproché.
C'est exactement ça. Alors pour ma part, j'avais déjà connaissance de ce dispositif, mais sur un mode tout à fait hasardeux. Hein. J'étais tombé dessus par hasard. Et je suis confronté à l'impact des incarcérations dans mon quotidien à l'unité sanitaire. Hein. On peut facilement identifier à quel point les incarcérations pour les personnes concernées par les addictions et par la pathologie psychiatrique au sens large sont déstructurées, désocialisées par la détention. Et avant que ce projet se monte, je ressentais une insatisfaction similaire, mais qui n'était pas liée au même constat. On va dire qu'il était lié à l'impression de voir certaines de nos interventions handicapées par les décisions judiciaires, un peu
compromises. Parce que c'est deux logiques différentes, en fait.
Exactement. Hein. C'est-à-dire que ce sont deux logiques différentes, mais qui pourtant tendraient à viser le même objectif. C'est-à-dire que on poursuit toujours un objectif de rétablissement pour les personnes concernées. D'un point de vue de la santé, l'idée, c'est d'amener les personnes...
Rétablissement, pas guérison définitive.
Non, effectivement, il y a une distinction claire entre les deux. On pourrait catégoriser le rétablissement comme le fait d'accéder à une vie digne et satisfaisante en dépit de la maladie. La guérison, ça pourrait plutôt s'apparenter à la disparition du trouble ou de la maladie. Et effectivement, dans cet objectif de rétablissement, on a bien vu que les sanctions pénales peuvent, comme vous l'avez si bien expliqué, mettre du jeu, tout simplement, compromettre cet objectif-là.
C'est ça.
Et donc, quand ce projet a émergé, que j'ai été contacté par Madame Grosjean, j'étais déjà dans le train, comme
alors,
on dit.
Déjà dans le train. Alors, les juges de Floride, ils insistent beaucoup sur une dimension, c'est qu'ils ont rencontré la population, ils ont rencontré les gens de cette banlieue très très défavorisée, et c'est ensemble, ils insistent là-dessus, c'est autant une juridiction résolutive de problèmes qu'une community justice, une justice dans la cité, une justice dans la société, Catherine Grosjean.
Alors, on a aussi procédé de la même façon, parce que, en définitive, moi, ce que je savais, c'est que pour que ça marche, il fallait que tout le monde se mette autour de la table avec la personne, le bénéficiaire concerné, c'est-à-dire la personne condamnée. Et donc, en fait, ce que j'ai constitué cette équipe en m'adressant aux professionnels. C'est-à-dire, j'ai commencé par, bien entendu, l'administration pénitentiaire qui m'a dit « Ah oui, mais si vous voulez qu'on travaille bien, il faut que vous alliez voir la psychiatrie. Je vous donne quelques noms. » Et là, à la psychiatrie, donc, j'ai rencontré, il y avait M. Menel Mamoun, d'autres psychiatres qui m'ont dit « Oui, mais si vous voulez qu'on travaille bien, il faut absolument travailler avec le social. Je vous donne quelques noms. » Donc, je suis allée contacter les associations et donc, nous avons une très grosse association clermontoise, l'association C'est Clair, qui, s'occupe de l'hébergement d'urgence. Parce qu'en fait, pour que ces prises en charge fonctionnent bien, il faut que tout le monde travaille en même temps, qu'il n'y ait pas de désynchronisation des actions.
C'est
et
ça.
Donc, on a constitué le groupe comme ça, presque par cooptation. Donc, c'est les professionnels qui ont dit, voilà, nous, on vous fait le monde idéal de la prise en charge des addictions sur Clermont-Ferrand. Et on a essayé de se constituer cette expression de cette intervention idéale.
Joël Béard, vous avez...
Oui, effectivement, je crois que c'était très important de travailler à partir, vous l'avez dit, aux États-Unis, c'était la communauté locale qui s'est mobilisée parce qu'ils se trouvaient confrontés à ces difficultés-là. Et là, on est allé chercher les gens qui étaient déjà en place, qui travaillaient chacun dans leur coin et sans beaucoup de communication. C'est ce qu'a évoqué le docteur Benel Mamoun en disant que parfois les interventions judiciaires venaient mettre à néant le travail médical qui était construit. Donc on est allé chercher les gens du coin, les gens impliqués dans le secteur, qui savaient de quoi ils parlaient, mais chacun dans son secteur, pour se mettre tous ensemble autour d'une table, être formés ensemble aussi à ces pratiques nouvelles pour nous, en tout cas justice. Et on en voit effectivement le bénéfice.
Alors,
aujourd'hui.
On va revenir sur le bénéfice. Docteur Benel Mamoun, j'ai des souvenirs anciens de rapports entre la justice et la psychiatrie. La psychiatrie nous disait « Ah, mais il n'y a pas de demande ». Tant qu'il n'y a pas de demande de la part du patient, on ne peut rien faire. Ça a changé, ça a évolué, ça ?
Alors oui, on peut considérer que c'est une manière de considérer les choses qui est un peu révolue désormais. Aujourd'hui, ce qui prédomine dans la philosophie des soins, c'est ce qu'on appelle l'aller vers, hein, c'est-à-dire que...
Aller vers,
exactement.
C'est un verbe, c'est plus dynamique.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on va aller solliciter les gens, on va pas hésiter à venir à leur rencontre, aller poser des questions sur leurs difficultés et tenter d'apporter une réponse ou alors au moins un accompagnement à ces personnes-là, de telle sorte à ne pas laisser d'angle mort. Les personnes qu'on accompagne, les gens qui souffrent d'addiction, qui souffrent de pathologie mentale, et d'addiction...
Oui. Est-ce que ce sont des choses différentes ?
Ce sont des choses qui sont différentes, mais qui finissent par se rejoindre.
Oui, c'est ça. Oui.
D'ailleurs, dans le milieu, on parle de pathologie duelle. Hein, c'est-à-dire que la pathologie duelle, c'est l'intrication entre un trouble psychiatrique et une pathologie addictive. C'est comme un match de tennis, où chaque joueur essaie de taper de plus en plus fort la balle. Il existe une interaction synergique entre les symptômes psychiatriques, la consommation de substances, et l'un vient répondre à l'autre progressivement. Et en fait, dans le temps, on arrive à une situation extrêmement complexe où la personne a et des manifestations psychiatriques complexes et des consommations intenses de substances.
Alors, taper de plus en plus fort, si je puis me permettre cette métaphore, Madame la Présidente, taper de plus en plus fort, c'est aussi le problème du juge. C'est-à-dire que il commence par mettre des petites peines, des peines plus importantes, mais du sursis avec mise à l'épreuve. Mais enfin, il peut plus, et on est dans un cercle infernal, en quelque sorte.
Oui, c'était tout à fait ça. C'est la raison pour laquelle j'étais très motivée par la création de cette juridiction. La philosophie que j'ai eue quand j'ai monté ce dispositif, cette nouvelle pratique, c'est surtout que ça traverse aussi tout le tribunal de Clermont-Ferrand et que ne soient pas concernés que les juges d'application des peines, mais également les juges qui jugent.
C'est ça, mais je voulais vous poser cette question parce que c'est quand même une sacrée révolution de dire à des juges qui ont été formés à apprendre le droit, à appliquer le droit, à respecter la procédure, à prononcer des peines, tout d'un coup on leur dit « Ah non, vous allez accompagner et vous allez pas changer de métier du tout, on va le voir, mais vous allez exercer différemment votre position
Absolument.
Sociale. »
Je l'expliquais souvent par une inversion du positionnement du juge d'application des peines. Traditionnellement, le juge d'application des peines rencontre les condamnés, en gros, pour leur faire remarquer et les sanctionner parce qu'ils n'ont pas respecté les obligations qui sont à leur charge.
Que quand ça ne va pas.
Quand ça ne va pas, voilà, pour sanctionner. Donc, il a vraiment une image sanctionnatrice qui continue finalement la condamnation. Alors que là, c'est tout l'inverse. C'est le juge d'application des peines va construire avec la personne un projet d'accompagnement global et va l'accompagner en le rencontrant et en valorisant ses évolutions favorables. On est complètement dans l'inverse.
Joël Beylard, vous...
C'est effectivement ça. On nous demande de faire un pas de côté, mais on ne nous demande pas de renoncer à notre qualité de juge, à ce qu'on attend de nous. C'est un pas de côté qui permet, par une posture nouvelle, d'écoute active, de respect, d'impartialité, d'asseoir, à mon sens, davantage la légitimité de notre intervention auprès des condamnés, qui sont du coup beaucoup plus réceptifs au discours qu'on peut leur délivrer, compris un discours d'autorité et de recadrage.
Joël Beylard-Roseroff, vous avez été juge des enfants.
Oui.
Donc, vous avez pratiqué cette forme de justice déjà, alors avec des mineurs, dans lequel on reçoit souvent les mineurs, on reçoit les familles, on n'est pas dans une attitude de sanctionnatrice, punitive. Ça ne ressemble pas un petit peu à ce que vous avez fait quand vous étiez juge des enfants ?
Ça ressemble, ça rejoint. C'est effectivement une posture que l'on peut avoir sans forcément être impliqué dans une juridiction résolutive de problèmes. Et c'est en ce sens que ça m'a intéressée dès le départ, puisque effectivement, ça a répondu à un certain nombre de postures que je pouvais adopter par le passé. Mais là, on pousse les choses un peu davantage, et notamment on utilise les outils de l'entretien motivationnel auquel on a été formé.
Qu'est-ce que c'est que l'entretien motivationnel?
L'entretien motivationnel,
on est loin du droit pénal.
C'est une forme de communication avec la personne bénéficiaire ou le condamné qui permet de mettre le doigt sur l'ambivalence qu'elle présente. On a tous plein d'ambivalences. J'ai envie d'arrêter de fumer, mais finalement, ça m'apporte du plaisir. J'ai envie d'arrêter de manger des gâteaux, mais j'aime trop ça.
Oui.
Enfin voilà, donc on est tous faits d'ambivalence et cette technique d'entretien motivationnel met le doigt sur cette ambivalence et permet, en utilisant différentes techniques de valorisation, de résumé, de reflet, de différents outils qui permettent de mettre l'accent sur le discours changement. C'est-à-dire, dans le discours d'une personne, on a toujours un peu ce qui nous engage à maintenir la situation telle qu'elle est, et puis les avantages qu'on aurait à changer. Et donc, c'est accompagner la personne vers le changement.
Et ouais. Ben El Mamoun, on entend un juge, mais on se demande si c'est pas une psychiatre qui parle, non ? Il n'y a pas une confusion des rôles, non ?
Alors, pour ma part, je suis ravi que Madame Beylard ait aussi bien résumé ce que c'est que l'approche motivationnelle. Effectivement, on se sentirait presque déçu de se voir dérober un outil pourtant si...
qui est très en vogue aujourd'hui. Hein.
Alors,
on
très en vogue,
beaucoup,
oui. Mais on peut aussi se rappeler que la pratique de l'entretien motivationnel a émergé dans les années 80 dans le champ de la dictologie. Hein. C'est vraiment une pratique...
Ça vient de la dictologie.
C'est effectivement un style conversationnel qui est adopté par les thérapeutes, par les médecins, les infirmiers, les psychologues qui travaillent dans ce milieu-là pour accompagner le changement. Madame Beylard, vous l'avez bien dit, le changement pour qu'il puisse émerger, il faut qu'on parvienne à tenir compte de notre ambivalence, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous maintient dans le comportement et quels bénéfices on aurait éventuellement à le changer. Et donc, notre idée dans l'approche motivationnelle, c'est d'accompagner ce changement
et
avec...
de susciter la motivation.
Exactement, tout à fait.
Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur les juridictions résolutives de problèmes en compagnie du docteur Ayman Ben El Mamoun, qui est addictologue, Joël Bella-Roseroff, juge d'application des peines, et Catherine Grosjean, présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Nous nous trouvons, Catherine Grosjean, qui a choisi de nous faire entendre cette chanson d'Amy Winehouse, Rehab.
Oui, Rehab, c'est donc elle, dans cette chanson, elle explique qu'elle ne veut pas aller en cure de désintoxication et qu'elle peut très bien s'en sortir toute seule et que donc elle n'a pas le temps à consacrer, quand bien même son père lui demande d'aller en cure de désintoxication. Et tout ça, ça montre qu'on s'en sort pas toute seule, puisqu'elle est malheureusement décédée quelques années après, en 2011, donc après l'enregistrement de cette chanson et tous les ravages de la polytoxicomanie, puisqu'elle avait, je crois, un taux d'alcool de plus de 4 grammes quand elle a été retrouvée décédée.
Ça veut dire, docteur Ayman Ben El Mamoun, ça veut dire qu'en fait, une première phase, on croit qu'on maîtrise dans le produit, qu'on maîtrise sa consommation, que ça va aller.
Vous décrivez bien les choses, hein, c'est-à-dire que les personnes qui sont concernées par l'addiction ne sont pas immédiatement déterminées à changer leur comportement. Il existe une partie importante de leur existence pendant laquelle ils vont entretenir leur consommation parce qu'ils y trouvent des bénéfices importants. Ça leur permet de réguler leur humeur, ça leur permet d'accroître leur performance, ça leur permet d'accéder à l'euphorie.
Supporter une vie difficile.
Exactement aussi. Vraiment, je pense qu'il faut caractériser les consommations de substances comme des stratégies d'adaptation. Certes dysfonctionnelles, mais des stratégies d'adaptation quand même. Et donc, avant de parvenir à un stade où les consommations et leur retentissement paraît insupportable, il y a une partie importante pendant laquelle la personne se dit « ben non, ça va, c'est rien ». Et la consommation est effectivement banalisée, elle est minimisée. Et puis petit à petit, la personne s'enferme dans ses difficultés.
Et puis surtout, elle est interdite. C'est-à-dire qu'on côtoie l'interdit, on côtoie des produits interdits, on risque de se faire arrêter par la police. Et il y a un moment, j'imagine, où là, ça a une sorte de rappel à la réalité. Et
effectivement. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un déterminant majeur du changement de comportement au début.
La première démarche, c'est pas une affaire pénale.
La peur de la sanction pénale, elle est au second plan pendant le début, parce que au final, les personnes qu'on côtoie, l'univers dans lequel on découvre la substance est généralement assez éloigné des cours. Hein, et donc, c'est pas la première chose qu'on se dit quand on commence à consommer du cannabis, de la cocaïne ou les autres substances illicites dont on peut devenir addict. Et ça le devient ultérieurement. Ça le devient ultérieurement quand la question de l'impact sur sa vie qu'a eu notre parcours carcéral se pose. Effectivement, quand on a fait 14 ans de détention pour des faits plus ou moins en lien avec les consommations, on finit inévitablement par se poser la question du sens de l'existence. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai construit? Et c'est à ce moment-là que cette réflexion gagne en importance, même si ce n'est pas la seule qui vient alimenter le changement. Il y a d'autres considérations parallèles à la question de l'impact de la justice sur notre vie qui nous amènent à un moment à prendre la décision d'interrompre nos consommations.
Alors, José Abelard-Roserov, qu'est-ce qui lance l'idée d'une prise en charge sur le mode de la juridiction résolutive de problèmes? C'est vous, c'est le JAP?
Alors oui, en tout cas à Clermont-Ferrand, parce qu'il n'y a pas un modèle unique.
C'est, oui,
hein,
mais ça c'est
France.
Très bien
voilà,
qu'il n'y ait pas de modèle unique. Chacun fait un peu...
À Clermont-Ferrand, on a décidé de mettre ça en place au niveau post-sententiel, c'est-à-dire après que les personnes aient été condamnées. Peut-être pour évacuer le problème justement de la reconnaissance des faits, oui. L'enjeu de la condamnation, oui. Tout ça est passé. C'est pas une carotte qu'on saisit pour être moins condamné.
Oui, qui peut fausser les choses aussi, bien
voilà,
sûr.
Qui peut fausser l'adhésion réelle, parce que ce qu'on recherche, c'est effectivement une adhésion réelle de la personne qu'on va accompagner, parce qu'en fait, on va travailler avec elle, tous autour d'elle, et il faut qu'elle soit en confiance suffisante avec l'ensemble des partenaires pour faire émerger et pouvoir exprimer les besoins qu'elle ressent pour qu'on puisse l'accompagner donc au changement au vu des besoins qu'elle peut exprimer. Donc les personnes à Clermont-Ferrand qui décident de qui va entrer effectivement dans ce cadre de suivi, ce sont les juges d'application des peines, mais avec l'aide d'un repérage des soignants, du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et en fait, tout l'enjeu, c'est, comme le disait le docteur Benel Mamoun, de repérer chez des condamnés que l'on est amené à voir très régulièrement, ben, le moment où, ça y est, j'ai pris conscience qu'il faut que je change. Pour plein de raisons.
Oui. Il faut noter aussi qu'il faut qu'il existe un rapport entre la pathologie addictive et les faits condamnés. Hein. C'est-à-dire que parfois, il existe des gens qui sont condamnés pour des faits qui n'ont pas un rapport direct avec les consommations ou l'addiction.
Mais le problème, c'est bien l'addiction.
Mais pour les personnes qui sont incluses dans la JRP clermontoise, donc la juridiction résolutive de problèmes, on a bien identifié le fait qu'il était plus pertinent que ce lien soit établi. Quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette importance, Catherine Grosjean, cette importance des besoins. Ça, c'est la grande nouveauté, parce que c'est le fond d'ailleurs aussi de la justice restaurative. On part des besoins. Sauf que là, c'est pas les besoins de la victime, c'est les besoins de la personne qui passe de plus en plus fréquemment devant la justice.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est un des prismes d'examen des situations qui va être pris en compte. Et notamment, dans les besoins, bon, bien entendu, il y aura le parcours de la personne, hein, puisqu'il doit avoir à la fois un lourd passé judiciaire, parcours judiciaire très lourd, mais également parcours sanitaire très lourd. Et en ce qui concerne ces besoins, ils vont plutôt être approchés sous l'angle de qu'est-ce que la justice résolutive, et donc cette pratique particulière, ce suivi particulier, va pouvoir lui apporter. On ne pourra pas lui apporter, en termes aussi d'arrêt de la récidive, parce que c'est toujours notre objectif, une prise en charge traditionnelle. Donc vraiment la question, c'est que c'est une pratique et un suivi exceptionnel dans des situations et à un moment particulier où on va se mobiliser comme ça des moyens
on passe à autre chose, à
quelqu'un, voilà.
Joël Bellard.
On sélectionne effectivement des gens pour qui les parcours classiques d'accompagnement, que ce soit judiciaire ou sanitaire, ont quelque part échoué, puisqu'ils sont revenus, ils ont recommis un certain nombre d'infractions, ils ont des passages réguliers, y compris en détention. Et en fait, ce qu'on met en place classiquement ne fonctionne pas, parce que les problématiques sont trop complexes, sont trop anciennes, ancrées, et on a besoin donc d'agir tous ensemble avec la personne pour que de petites choses, hein, quand on parle de besoins, ça peut vraiment être des choses minimes,
comme
mais qui
révèlent.
Qui révèle, par exemple...
La mobilité.
Oui, la mobilité, oui, voilà.
Un exemple flagrant auquel on peut souvent être confronté dans les commissions, c'est que nos patients ont de grandes difficultés à se déplacer sur le territoire. Et quand, par exemple, il y a une audience avec la juge, avec le conseiller de probation, avec le psychiatre, dans la même journée, alors que la personne habite à 30 km et qu'elle n'a pas de voiture, et ben, c'est compliqué. Et justement, quand on a une constellation d'intervenants qui peuvent influer, qui peuvent trouver des solutions, qui peuvent amener la personne à pallier ce problème, ben, en fait, on facilite les choses.
C'est ça. Mais alors, ça veut dire que pour vous, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans votre pratique de thérapeutique, vous, docteur Ben El Mamoun? Qu'est-ce que ça change le fait qu'il y ait l'enclenchement d'une procédure, d'une juridiction résolutive de problèmes?
Alors, ça va pas modifier drastiquement le contenu théorique ou le contenu pratique.
Les protocoles thérapeutiques restent les mêmes.
C'est exactement ça. Néanmoins, le fait qu'il existe cette modalité d'interaction, cette modalité de communication entre nous, fait qu'on vient rasséréner tout le monde autour de la personne et qu'on vient attester un petit peu de ce qui se passe aussi. Je pense qu'une grande difficulté pour les justiciables, c'est de se présenter à l'audience et dire oui, mais j'ai vu le docteur Ben El Mamoun et d'avoir de grandes difficultés à transmettre ce qui se passe et ce qui se déroule réellement. Et c'est vrai que un autre aspect parfois qui pour lequel il n'y a pas suffisamment de plaidoyer, c'est la question de la réduction des risques dans la représentation commune.
C'est-à-dire une réduction des risques.
C'est-à-dire que dans l'imaginaire commun, on considère que pour qu'une personne soit réellement soignée de ses addictions, il faudrait qu'elle parvienne à une abstinence, par exemple. Alors qu'en réalité, la manière dont on se rend compte que les choses se passent pour nos personnes addictes, avant de parvenir à cette étape d'abstinence, elles sont bien souvent obligées de passer par une étape de réduction des risques. C'est-à-dire que le comportement persiste, mais il persiste sous une modalité qui permet d'en limiter le retentissement, tout simplement.
C'est ça.
C'est ok, c'est vrai que je continue de consommer de la cocaïne, mais plutôt que de consommer 4 grammes par jour, j'en consomme de temps en temps, et quand j'en consomme, je consomme seul, chez moi, et je ne vais pas me castagner avec les gens dans la rue.
C'est ça. C'est ce que je comprends, Joël Bellard, Azerov, c'est que, et ça c'est très important, il y a une plus grande cohérence dans les institutions, dans le travail des institutions, souffrent beaucoup les justiciables.
C'est exactement ça, c'est ce que j'allais souligner, c'est aussi l'intérêt pour le justiciable d'avoir un discours commun de l'ensemble des intervenants autour de lui. Et quand ils voient, eux, que nous, on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on a repéré tous les mêmes difficultés, que la personne qui est impulsive et qui va revenir devant le tribunal régulièrement parce qu'elle a commis des faits de violence dans la rue alors qu'elle était alcoolisée, y compris le psychiatre va lui dire, en fait, c'est un réel souci que moi aussi je constate et que nous, on peut aussi entendre que monsieur a fait des efforts en termes de réduction de sa consommation d'alcool, il l'a pas complètement arrêté. Mais tout ça devient beaucoup plus cohérent et la personne s'en rend compte, inévitablement, et est donc beaucoup plus réceptive à notre discours. Et c'est pour moi, institution judiciaire juge, je considère que le discours de la justice, il doit être entendu. Il n'est utile que s'il est entendu et compris. Et c'est en cela que ces programmes-là permettent de délivrer le même discours que celui qu'on essaye désespérément de délivrer en audience correctionnelle ou dans un face-à-face où on ne s'écoute pas. Là, les conditions qu'on a mises en place dans ce type de programme font que la personne entend.
Alors, c'est ça. Entendu et compris. Pour être entendu, il faut parler, il faut la voix, il faut une voix qu'on écoute. Et c'est très important dans la littérature, dans les réflexions transatlantiques qu'on trouve au Canada, qu'on trouve ailleurs en Europe. Catherine Grosjean, c'est cette idée, la voix du justiciable doit compter.
Absolument, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est que le justiciable est totalement partie prenante du programme. C'est-à-dire qu'il va accepter qu'on étudie déjà la faisabilité pour lui, il va également contractualiser la suite, et ensuite il sera l'un parmi les autres. Il faut imaginer ces commissions d'accompagnement où vous avez le justiciable condamné, mais également le juge d'application des peines, le psychiatre, le social, le logement, etc. Tous ceux qui vont contribuer en fait à mettre en place avec lui tout ce qu'il lui faudra pour s'en sortir. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est partie prenante, avec un maître mot, le contradictoire. Tout se fait avec lui, en sa présence. Rien ne se dit derrière lui. Et un secret médical partagé. Donc, je trouve vraiment que ces programmes-là sont très, très intéressants pour
ça. Là aussi, docteur Ben El Mamoun, il y a une évolution pour le secret médical.
C'est certain. Hein. Nous, ça nous amène dans une situation où on doit sortir un petit peu de ces retranchements qu'on peut avoir en tant que médecin. Quand on devient médecin, on n'est pas toujours confronté au monde de la justice.
Et, on s'en méfie un peu, peut-être aussi.
Exactement. C'était ce que je cherchais à souligner. Hein. C'est une nébuleuse qui nous est mystérieuse et du coup, on ne sait pas dans quel engrenage on met le doigt. Et avant de parvenir à avoir cette sérénité dans la transmission des informations ou le fait d'exposer comment la prise en charge se déroule pour le patient, quelles sont les interventions thérapeutiques qui sont mises en place, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir à travers les soins, il faut une confiance établie avec le personnel judiciaire. Et c'est vrai que ça exige une connaissance du milieu. Là, j'insiste sur le rôle charnière de ma position au sein de la détention. C'est vrai que...
En tant que psychiatre, oui.
C'est ça. Oui. Aujourd'hui, on constate encore une certaine difficulté pour certains de nos collègues à avoir la facilité de dire ses soins, de transmettre des informations médicales. Et pourtant, on se rend compte qu'à travers ce qui se passe dans la JRP, le bénéfice se fait à la faveur du patient. Hein, c'est-à-dire que c'est à son service.
C'est ça la véritable révolution, c'est que c'est désormais le patient, le justiciable, le citoyen qui est au centre de l'action. Et alors, ça change, Joël Bellat-Rosseroff, j'ai l'impression que ça change la valeur du temps. C'est-à-dire que le temps, c'est pas, on essaie de s'en sortir, patatras, c'est un peu comme là. Il y a de nouveau un délit, tout est foutu, on partout à zéro. Là, il y a une continuité.
On est d'accord. On a beaucoup appris lors des formations qu'on a fait avec les addictologues sur le temps, l'appréciation du temps et la temporalité. Alors là, on est sur une temporalité commune avec des objectifs communs. Mais effectivement, nous, classiquement, dès lors que de nouveaux faits délictueux étaient commis, c'était la catastrophe. Tout était remis en cause. On développait un arsenal énorme. Catherine Grosjean l'a dit. On devient de plus en plus répressif. Et puis on finit inévitablement en détention. Tout ça sans réelle efficacité. Et là, on a appris une démarche de réduction des risques côté judiciaire.
Oui, la même,
celle qui est en parallèle avec ce qui se met en place côté médical. Et effectivement, on est bien conscient, enfin, on devient bien conscient que tout ne va pas s'arrêter en un jour et que c'est une démarche de rétablissement. Et qu'on travaille, c'est un travail de petits pas. On fait quelques objectifs à la fois et on voit que le temps qui s'écoule entre le nouveau passage à l'acte et la dernière condamnation s'allonge. Alors, ça, c'est la victoire, en fait. C'est une réduction des risques de récidive qui n'est pas absolument visible d'emblée. Mais quand on regarde le dossier de la personne, on voit que avant, il venait tous les 3 mois devant le tribunal. Maintenant, il est resté 9 mois.
Il s'allonge et il s'ouvre aussi, Eman Ben El Mamoun. Il s'ouvre, c'est-à-dire que finalement, l'objectif, vous le disiez, c'est pas le sevrage, c'est pas d'arrêter, mais c'est peut-être de retrouver une certaine maîtrise de son existence.
Exactement. Là, pour renforcer un petit peu les propos de Madame Bellard, en fait, on rejoint ce qu'est l'addiction. Il s'agit d'une pathologie chronique. Et tenter d'aller plus vite que la musique, ça n'a pas de sens. On est obligé de se fier au rythme des personnes accompagnées. Si on tente de leur imposer des objectifs en contradiction avec ce qu'ils ressentent, ce qu'ils arrivent, ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre, on les met en échec, on se met en échec. Et puis en fait, ce qui devrait être une danse se transforme en un combat décourageant pour nous, pour les autres. Et on n'y arrive vraiment pas du tout.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
L'Esprit de Justice qui s'est délocalisé à Clermont-Ferrand pour parler d'une expérience de juridiction résolutive de problèmes en compagnie de la présidente du tribunal judiciaire, Catherine Grosjean, d'une juge d'application des peines, Joël Bella-Roseroff, et du docteur Eman Benelmamoun qui a choisi de nous faire entendre cette air cocaïne. Là, je vous demande même pas pourquoi vous avez fait ce choix, docteur.
Parce que les paroles transcrivent l'inévitabilité de la consommation. Dans les paroles, il associe à tout un tas de choses essentielles du quotidien, cocaïne, ponctue avec cocaïne. Ça veut dire qu'en fait,
ça revient tout le temps.
Dans les addictions, on est submergé par les envies de consommer. Et je trouvais que la légèreté, le côté un peu
esthétisant
de la chose, transcrivait aussi une forme d'espoir. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se vautrer dans un fatalisme misérabiliste. Non, il y a vraiment beaucoup d'espoir pour les gens qui ont des addictions. Et c'était ce que je souhaitais transmettre avec cette chanson.
Que serait la justice sans la chance du bonheur, dit Camus, dans une formule magnifique. Et là, la juridiction résolutive de problème, c'est leur donner cette chance de bonheur au moins, de s'en sortir, Joël Bella-Roseroff.
Oui, c'est vrai. On parle de gens et on n'évoque pas précisément d'exemples. Ça parle alors, peut-être pas beaucoup aux auditeurs. D'abord, juste pour dire qu'en fait, on accompagne des gens qui sont très, très différents dans leur parcours, très variés. On accompagne des femmes, on accompagne des hommes, on accompagne des gens très jeunes, des gens qui sont beaucoup plus âgés et qui rencontrent des addictions de tous ordres, que ce soit l'alcool, différents types de drogues, mais aussi on a eu quelqu'un qui était addict aux écrans. On teste un peu toutes sortes de choses on va vous parler donc d'un jeune homme qu'on a suivi tous les deux, le docteur Eman Benelmamoun et moi-même, dans le cadre de ce parcours. Alors c'est un trentenaire qui a connu un parcours de vie très très difficile, qui s'est progressivement désocialisé, hein, qui menait une vie de marginal, on va dire, et qui avait été confronté à de multiples reprises à la détention, très régulièrement, pour différents types d'infractions d'ailleurs, que ce soit des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais aussi des délits routiers, des violences, enfin il y avait un peu de...
Il était en dehors de la société, quoi, c'est...
Oui, il vivait avec son chien, surtout. Hein. Je crois que la personne la plus importante dans sa vie, en tout cas au moment où on l'a rencontré, c'était son chien, qui venait d'avoir laissé en pension, entre guillemets, à la SPA le temps d'une incarcération, et qu'il avait retrouvé, ayant perdu une quarantaine de kilos, et ça lui faisait beaucoup de soucis. C'était vraiment l'inquiétude du moment. Quelqu'un qui souffrait de multiples addictions, mais docteur Benelmamoun en parlera mieux que moi, et qu'on a commencé donc à accompagner dans le cadre d'une peine de sursis probatoire, avec tout à construire en fait, tout à reconstruire. Puisque l'incarcération...
Il était partant pour ça.
C'était son souhait.
Alors, docteur Benelmamoun.
Effectivement, la personne en question, c'est quelqu'un que j'ai commencé à suivre avant qu'il soit intégré dans la JRP. D'ailleurs, il me semble que c'est moi qui voulais repérer.
En détention, effectivement.
Exactement, qui me suis dit que ce serait peut-être une solution adaptée pour lui. Et c'est quelqu'un qui, pendant des années, a consommé diverses substances, de l'alcool et tout le reste. Et de ce fait-là, a été confronté effectivement au parcours carcéral. En tout cas, quand on l'a intégré dans le dispositif, on a été confronté à plusieurs aspects. Tout d'abord, quand même, des améliorations substantielles, hein, c'est-à-dire qu'on est parvenu à des périodes durables d'abstinence qu'il n'avait jamais connues. Je vous donnerai pas de durée précise, mais on est fastoche à plus d'un an d'abstinence en alcool. En cocaïne, il y a des consommations encore, à l'extérieur de l'incarcération, quelques consommations, mais tout à fait ponctuelles, sans perte de contrôle, sans conséquences réelles. Il s'est était plutôt stabilisé dans ce logement, donc ça c'était pour le positif, mais on s'est confronté pendant son accompagnement à une autre réalité de son quotidien, c'était que sa connaissance du milieu de la délinquance l'a mis entre les pattes de gens qui étaient profondément mal intentionnés à son égard et qui ont commencé à le racketter, hein, tout simplement. Hein. Et alors ça, c'était les vestiges de sa vie d'antan.
Et là, il fallait le protéger, plus le condamner.
C'est ça, il fallait le protéger. Alors on a
ça
tenté...
On était très heureux de voir qu'il investissait le nouveau logement qu'on avait pu effectivement mettre à sa disposition, qu'il était très fier de dire qu'il avait cessé toute consommation d'alcool et il le portait physiquement sur lui. Hein, c'était quelque chose qui était vraiment mesurable. Et puis, petit à petit, les anciennes connaissances sont réapparues de plus en plus fréquemment dans la vie, ont commencé à le racketter et l'ont emmené à commettre de nouvelles infractions pour régler des dettes.
Sauf que là, vous étiez en capacité, je parle la justice, de comprendre les tenants, les aboutissants, de plus mieux comprendre les tenants, les aboutissants, Joël Bénard.
De mieux comprendre, effectivement, tout en cautionnant pas.
Bien sûr,
puisque évidemment, le but, c'est quand même que on évite les passages à l'acte. Donc, ça m'a confrontée à des difficultés et des interrogations, puisque il est venu dans mon bureau, un lien de confiance s'était créé, on se voyait assez régulièrement, et il est venu poser ça, dire que effectivement, d'abord, il reconsommait un peu plus. Pas tant de l'alcool, mais beaucoup de produits. Et puis, ben, il avait commis ses faits. Il était passé en garde à vue, je l'avais su, etc. Donc, que faire ? Finalement, il a été poursuivi pour ses nouveaux faits. Et on a pu, nous, témoigner auprès de nos collègues des magistrats correctionnels qui allaient le juger pour ses nouveaux faits, de l'évolution dans le parcours.
Je pense que ce qui est notable dans le cheminement de cette personne, c'est le fait qu'en réalité, l'incarcération n'est intervenue qu'en bout de chaîne, hein, vraiment. C'est-à-dire que on a tenté de résoudre cette situation problématique pour lui. On a considéré tout un tas d'options. On a vu avec les collègues de l'hébergement s'il n'y avait pas possibilité de le faire changer de logement, s'il n'y avait pas possibilité de le faire changer de téléphone portable pour échapper justement à ses assaillants. Et bon, force est de constater qu'on n'y est pas parvenu. Néanmoins, le fait qu'on se soit réellement donné du mal pour ça, qu'on ait vraiment entendu la douleur dans laquelle il était, il faut noter aussi que les faits qu'il a commis étaient une réponse à la situation qu'il traversait. C'est-à-dire qu'il est allé voler...
Il est allé voler une caméra de vidéosurveillance pour la mettre sur sa porte d'entrée.
Voilà, ah oui, pour se prémunir ça. Contre...
Est-ce que je me trompe si je dis, parce que je relève que vous dites il était fier de s'en être sorti, fier d'avoir... Est-ce que la clé, c'est pas... Il a senti qu'il n'avait pas perdu votre confiance.
Exactement. Et d'ailleurs, je continue de le voir en détention dans l'état actuel des choses. Et le regard qu'il porte sur l'incarcération qui est la sienne actuellement est fondamentalement différent du discours qu'il pouvait avoir par rapport aux incarcérations antérieurement.
C'est ça. Il s'est distancié finalement à l'égard de cette...
Je dirais qu'il est beaucoup plus réceptif parce que au suivi qu'on peut lui proposer maintenant, parce qu'il a compris qu'il pouvait être entendu, qu'on pouvait prendre en compte sa situation, qu'on avait vu les progrès qu'il avait fait, qu'on l'avait valorisé. Parce que quand il est passé devant le tribunal, on ne l'a pas condamné directement à partir en détention.
C'est ça.
On a essayé de travailler avec lui autre chose. Finalement, ça a été trop compliqué et j'ai dû, et ça a été dur, de le réincarcérer parce que pour le protéger, à la fin, il n'y avait plus que ça. Et puis aussi pour sanctionner, parce que ça allait de moins en moins facilement. Et du coup, j'ai aussi pu mesurer le fait que quand on lit une relation de confiance avec quelqu'un et qu'effectivement, on est dans ce partage, la réincarcération s'avère beaucoup plus compliquée et exige de nous une explication peut-être plus poussée. Oui. Et l'autre la comprend et le docteur Benel Mamoun dit qu'effectivement David, qui continue à voir, a saisi aussi tout ça. Et
Avant, sur les peines précédentes sur lesquelles j'ai pu voir la personne en question, il y avait quelque chose de très, hostile par rapport aux décisions d'incarcération qui avaient été formulées contre lui.
Aux institutions en général.
Aux institutions en général. Hein. Et là, pour la première fois, en fait, son incarcération, elle est intégrée, comprise, et puis presque... reconnue comme bénéfique pour lui, parce qu'il considère que en fait elle l'a protégé à un moment où il en avait besoin. Et c'est pas le... Je vais pas m'étendre sur la situation de d'autres détenus, mais j'ai un autre détenu qui tient le
vous,
même...
Vous constatez les mêmes choses.
Voilà, un autre détenu, suivi sur la JRP, également réincarcéré dans des situations, des circonstances à peu près similaires, qui livre exactement le même regard sur l'incarcération qui a été prononcée.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point la JRP, la juridiction résolutive de problèmes, elle permet une mise à distance, mais de tout le monde, une mise à distance de lui par rapport à lui-même et par rapport à la incarcération. Et vous, ce que vous disiez, Joël Bellard aux Europes, vous avez une mise à distance aussi. Vous restez juge, c'est pas parce que vous avez ces rencontres régulières que vous cessez d'être juge.
Non.
Et alors, Catherine Grosjean, ça veut dire quand même que c'est un changement de culture pour la justice. C'est-à-dire, si on met tout bout à bout ce qu'on s'est dit depuis presque une heure, on se rend compte que on est passé au-delà de la sanction. On est passé au-delà d'une institution qui fait ce qu'elle doit faire, point barre.
Oui, absolument. Et c'est ce que je trouvais très intéressant et c'est ce que je voulais, moi. Moi, j'avais un deuxième objectif en accompagnant la création de cette JRP. C'était aussi de réfléchir aussi au positionnement du juge, la place du juge, son rôle. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, parce que là, on parle de réincarcération, mais il y a eu un tribunal correctionnel qui s'est réuni et qui a jugé de nouveaux faits commis dans le cadre d'un parcours. Et en fait, le tribunal correctionnel fait aussi partie du dispositif JRP. Ils participent à nos...
Chacun joue sa partition.
Ah oui, et ils sont au courant, si vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas avoir une justice qui soit très en avance au niveau des juges d'application des peines et en cas de commission de nouveaux faits, un tribunal correctionnel qui n'en avait jamais entendu parler et qui soit complètement à côté de la dynamique.
Mais ça veut dire que pour le juge, pour les juges, ça diversifie leur rôle. C'est beaucoup plus riche, mais c'est beaucoup plus riche parce que tout d'un coup, ils ne sont pas que celui qui applique la loi, il est aussi celui qui accompagne des personnes, Joël Bellard.
Ça redonne effectivement beaucoup de sens à nos métiers et ça nous permet d'accompagner et de voir qu'effectivement, quand on se donne la peine de faire le pas de côté, de s'ouvrir à d'autres institutions, à d'autres logiques...
L'aller vert, pour aller prendre l'expression
des psychiatres. Eh bien, finalement, on est souvent plus efficace que dans des postures classiques et en particulier répressives.
Et plus efficace, et donc aujourd'hui, à l'heure qu'il est, plus efficace, ça veut dire plus légitime, ça veut dire plus reconnu. Et qu'est-ce que ça vous apporte, docteur Ben El Mamoun, en tant que, du point de vue du psychiatre?
Alors, je dirais que c'est un gain substantiel dans le service des personnes accompagnées. C'est-à-dire que, en réalité, cette approche JRP, c'est une autre pratique orientée en direction du rétablissement. C'est conforme à ce que une psychiatrie nouvelle et moderne chercherait à faire. Aujourd'hui, on essaie d'amener les personnes en direction de leur empowerment, c'est-à-dire le fait de se saisir de leur existence et de leur capacité à vivre de
leur
manière satisfaisante.
C'est ça,
leur capacité d'agir et de vivre dignement et satisfaisante. En fait, la JRP, c'est un dispositif de plus en ce sens. Un autre intérêt pour le psychiatre, c'est la gratification liée au plaisir de voir ses pratiques partagées, validées, appréciées. Et puis, c'est une pièce de plus dans le jukebox du sens trouvé dans notre pratique.
Ce qui est intéressant, c'est dans ce mot qui revient tout le temps, le rétablissement. Ce rétablissement, il est polysémique. C'est à la fois le rétablissement de soi, comme un médecin le fait, il retape des gens, et c'est un rétablissement du citoyen. Et donc, c'est une restauration de la citoyenneté, on pourrait dire, Catherine Grosjean. Ça renforce le lien entre les personnes, entre les gens.
Bah oui, absolument. Et je dirais que tout le dispositif est gagnant en définitive. Et changer son regard et ses pratiques, se rapprocher aussi des besoins de l'intéressé, c'est également faire en sorte de servir mieux la justice et la société.
Et pour vous, en tant que chef de juridiction, ça demande du temps tout ça, ça demande de mobiliser alors des moyens au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il faut de la concertation, ça veut dire qu'il faut changer aussi ses méthodes de travail.
Bah, disons qu'il a fallu beaucoup de conviction et je l'avais au départ chevillé au corps puisque j'attendais depuis 10 ans de pouvoir monter ce programme. Et puis, je dirais qu'il y a eu beaucoup de chance parce qu'en définitive, je me suis rendu compte que ça reposait sur un besoin. Déjà, le besoin des magistrats et le besoin de tous les acteurs autour des questions
d'addiction. Une attente sociale aussi, on peut dire attente sociale.
Clairement, oui. Si j'ai pu trouver un tel écho, en fait, en construisant le groupe projet, c'est également qu'on m'avait expliqué qu'il y avait eu, en fait, des tentatives de travailler de façon coordonnée, mais qui ne reposaient à chaque fois que sur le porteur.
C'est ça. Et puis ensuite, dès qu'il quittait le tribunal, c'était. Alors que là, il y a Joël Bellard, il y a une institutionnalisation. C'est-à-dire que maintenant, ça marche. Et même quand vous quitterez le tribunal et quand le docteur Ben El Mamoun prendra sa retraite, ça continuera de.
On l'espère.
On espère, oui, effectivement. On a essayé de mettre en œuvre effectivement un cadre, des réflexes de travail que l'on communique à nos nouveaux collègues pour que tout ça perdure au-delà de nos petites personnes.
Selon moi, la manière dont la JRP vient apporter du sens à notre pratique, selon moi, ça devrait être la modalité universelle par laquelle on aborde le phénomène de la consommation dans la société et des infractions. Il faudrait que, dans une société idéale, il faudrait que ça se généralise et que ce soit comme ça qu'on aborde les personnes concernées.
Alors, une société idéale, on est le 1er janvier, c'est le moment des vœux, il faut se faire des vœux. J'en ai présenté à mes auditeurs et moi, je voudrais terminer en vous demandant à tous les trois quels vœux vous formez en général pour la JRP, peut-être pour autre chose. Je commence par la présidente Catherine Grosjean.
Oui, déjà une excellente année à tous vos auditeurs, tous les auditeurs de cette émission, mais également très longue vie à la JRP, clermontoise, mais également qu'elle puisse inspirer de très nombreuses JRP et surtout que les personnes qui présentent des addictions et des forts taux de récidive puissent rentrer dans une existence de citoyens dans lesquels ils vont trouver satisfaction.
Docteur Ben El Mamoun.
Je dirais que les vœux que je veux formuler, ils sont en résonance avec ce que vous avez formulé, Madame Grosjean. Moi, c'est des vœux de rétablissement.
Dans tous les sens du terme.
Rien n'a plus de sens pour moi que une vie riche et satisfaisante pour les personnes que j'accompagne. Et c'est ce que je souhaite pour eux.
Merci et je termine par vous, Joël Bellard.
Oui, je rejoindrai effectivement mes deux collègues en disant que je forme le vœu de voir l'institution judiciaire continuer à s'ouvrir sur d'autres mondes et participer à une pluridisciplinarité qui élève notre intelligence commune et qui ne peut être que bénéficiaire aux justiciables.
Et on va donc terminer avec votre choix musical, Joël Bellard-Roseroff. Pourquoi ce choix ?
C'est un peu le but final qu'on espère tous, de voir les personnes qu'on accompagne dans le cadre de la JRP se tenir à nouveau debout. Je crois qu'il le dit dans sa chanson, auparavant j'étais quelqu'un comme vous. Et bien voilà, donc on forme ce vœu et je forme ce vœu pour toutes les personnes accompagnées. Et puis de façon plus générale, le vœu de voir l'institution judiciaire s'ouvrir.
Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressent. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci.
Eh bien voilà, cette première émission d'Esprit de Justice est terminée. Un grand merci à France Bleu Pays d'Auvergne pour son accueil, à la responsabilité technique qu'il y avait ce soir Stéphane Ourlier, à la prise de son Antoine Bidet, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garabon.
Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, par les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le restant est
vous. Vous écoutez France Culture. La science CQFD. Cette semaine, on entre en fanfare en 2025 avec une semaine spéciale fête, une semaine musique et science.
Natacha Triou.
On donne le la avec un premier épisode sur la voix et sur les voix de synthèse. Puis, on monte en gamme avec les liens intimes entre musique et astronomie pour écouter la mélodie des astres. Et on écoutera les neuroscientifiques étudier notre cerveau, cet organe mélomane.
La science CQFD, du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.